Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Sélection du Reader's Digest et Pivot. Au programme, 11 vérités insolites sur la neige, la thérapie cognitivo-comportementale ou comment reprogrammer son cerveau, demander l'asile au chemin Roxham et votre bas de laine finance l'effondrement de la vie sur Terre. Bonne écoute!
Onze vérités insolites sur la neige. Un texte de Claire Novak, paru le 16 novembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Existe-t-il deux flocons de neige identiques? Indispensable pour pratiquer des sports d'hiver ou réaliser un bonhomme de neige, la neige a également son lot d'histoires à raconter. Première vérité. La neige n'est pas vraiment blanche. La neige est plutôt transparente. Les flocons sont constitués de cristaux de glace et la lumière qui les traverse rebondit sur chacun d'eux. Il se produit alors une réflexion du spectre lumineux qui renvoie les couleurs dans toutes les directions, ce qui produit la couleur blanche. Ainsi, le fameux Noël blanc traditionnel est fictif, mais tellement plus magique qu'un Noël translucide. Deuxième vérité. Des flocons à 6 branches. Il y a une raison scientifique à cette forme. Les molécules d'eau qui composent les flocons ne s'amalgament qu'entre cristaux de glace hexaèdres, à 6 côtés. Pour demeurer fidèle à la réalité, n'achetez donc pas de décorations et d'ornements qui présentent des flocons à 5 ou à 8 rayons. Troisième vérité. La neige bannie par décret. L'hiver a été particulièrement rude à Syracuse, New York, en 1991-1992. Il est tombé plus de 4 mètres de neige sur la ville, ce qui a poussé le conseil municipal à déclarer toute neige supplémentaire jusqu'à Noël illégale au nom des citoyens épuisés par le climat. Mère Nature n'a cependant pas suivi le mot d'ordre, car il a neigé 2 jours plus tard, et la quantité de neige a dépassé celle de l'hiver précédent. Quatrième vérité. Des flocons identiques. Le microscope permet de révéler des trésors. En 1988, Nancy Knight, chercheuse scientifique du Centre national en recherche atmosphérique du Colorado, a repéré 2 flocons parfaitement identiques provenant d'une tempête dans le Wisconsin. Pensez-y à 2 fois avant de dire à une personne qu'elle est aussi unique qu'un flocon de neige. Cinquième vérité. Source de phobie? Il existe une peur morbide de la neige qui s'appelle la chionophobie. Sixième vérité. Un flocon géant. Le flocon le plus imposant jamais enregistré mesurait 38 cm sur 20 cm de hauteur. On l'aurait observé à Fort Keogh, Montana, en janvier 1887. Malgré l'absence de preuves concrètes, les scientifiques corroborent totalement le fait. Septième vérité. Un record pour l'Italie. Le village de Capracotta, dans le sud de l'Italie, détient le record de la quantité de neige tombée dans une journée. On aurait mesuré 2,5 mètres de neige dans un délai d'une journée et demie, en mars 2015. C'est une moyenne de 13 cm à l'heure. Huitième vérité. En croissance au Canada. Le continent américain compte en moyenne 105 tempêtes de neige par hiver. Le nombre de blizzards aurait cependant doublé dans les 20 dernières années. Il y en aurait eu 9 par année entre 1960 et 1994 et 19 depuis 1995. les chercheurs soupçonnent un lien possible avec une accalmie des taches solaires. Neuvième vérité, sous forme de tempête. Au-delà de l'aspect inquiétant qu'inspire le mot « blizzard » par rapport à celui de tempête de neige, la différence repose sur la force des vents et le niveau de visibilité. Selon le service météorologique américain, un blizzard doit combiner d'abondantes quantités de neige et des vents de plus de 40 km/h avec une visibilité inférieure à 0,25 km. Dixième vérité, source d'eau douce. Autour de 75% de l'eau douce terrestre se présente sous forme de neige ou de glace, incluant les glaciers. Il recouvre 10% de la surface totale de la planète. Onzième vérité, pour un bonhomme géant. Le record Guinness du plus grand bonhomme de neige au monde a été remis à une dame de Bethel, Maine, qui a réalisé en un mois un bonhomme de près de 37 mètres de hauteur. C'était 11 vérités insolites sur la neige, un texte de Claire Novak, paru le 16 novembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. La thérapie cognitivo-comportementale ou comment reprogrammer son cerveau. Un texte d'Alison Baker, paru le 22 novembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. La thérapie cognitivo-comportementale est aussi efficace que les médicaments pour le traitement de la dépression. Qu'est-ce que la thérapie cognitivo-comportementale? Au début des années 1960, le psychologue américain Aaron T. Beck a voulu évaluer de manière plus scientifique l'efficacité de la psychanalyse sur des patients souffrant de dépression. Ses recherches ont plutôt montré que la manière qu'a la psychanalyse de voir la dépression comme une agression réprimée dirigée vers soi-même était erronée. Ces observations ont en effet révélé que ce sont nos pensées négatives actuelles qui déterminent nos réponses, et que c'est pensées automatiques sont elles-mêmes modelées par nos convictions, la perception que nous avons de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure. Par exemple, si celui qui pense être un raté échoue lors d'un test, il se dira « Bien sûr que j'ai échoué puisque je suis un raté. À quoi bon persévérer ?» Il se sentira sans doute déprimé et démotivé, ce qui ne l'encouragera pas à modifier ce qui devrait l'être pour obtenir de meilleurs résultats au test suivant. Et s'il échoue de nouveau, cela ancrera sa conviction négative fondamentale. Le cycle peut ainsi se reproduire indéfiniment. Aaron Beck a mis au point la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, afin d'aider les patients à reconnaître leurs modèles négatifs de pensée, à les évaluer, à les remettre en question, puis à modifier leur comportement. La TCC est depuis devenue le traitement de référence en matière de troubles anxieux et dépressifs. En quoi consiste-t-elle et comment savoir si elle nous convient? Une thérapie cognitivo-comportementale dure généralement entre 12 et 20 séances. L'objectif final est de fournir au patient les outils dont il a besoin pour devenir son propre thérapeute. Pour mener tout cela à bien, les thérapeutes donnent souvent des devoirs à leurs patients afin de les aider à se concentrer sur leurs pensées entre les séances. Tenir un journal, par exemple, peut aider un patient à garder la trace des événements qui déclenchent en lui une certaine réponse et à reconnaître ses modèles négatifs de pensée. Si la TCC est considérée comme un traitement de première ligne de l'anxiété et de la dépression, elle se montre aussi efficace pour les troubles de la dépendance, les problèmes de gestion de la colère et les troubles alimentaires. Étonnamment, Des recherches indiquent qu'elle pourrait également être bénéfique dans le cas de maladies considérées comme plutôt physiques que psychologiques, par exemple le syndrome du côlon irritable et la fibromyalgie, en aidant les patients à maîtriser leur réaction à la douleur. Cependant, en raison de sa brièveté, la TCC ne convient pas toujours aux patients voulant régler des problèmes du passé ou qui désirent des consultations régulières. Dans ces cas, une thérapie psychodynamique ou de groupe serait préférable. Voyez avec votre médecin de famille quel type de thérapie serait le plus adapté à vos besoins. Quelle est l'efficacité de la TCC si on la compare à celle des médicaments? La dépression est souvent traitée au moyen de médicaments, comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Mais selon un article publié dans Cognitive Therapy and Research, analysant les 50 dernières années de recherche en TCC, cette thérapie est au moins aussi efficace que les médicaments dans la plupart des cas. Il semble que les patients dépressifs traités avec succès par la TCC ont plus de deux fois moins de risques de faire une rechute que les sujets traités par des médicaments. Cela peut s'expliquer en considérant la dépression comme une adaptation évolutive ayant forcé nos ancêtres à réfléchir en profondeur à des problèmes sociaux complexes jusqu'à parvenir à une solution. Ainsi, notent les chercheurs, les thérapies qui tablent sur la fonction utile de la dépression auront tendance à être plus efficaces que celles qui se contentent d'en supprimer les symptômes, comme les médicaments. Greg Dubord, directeur de CBT Canada, remarque toutefois que certaines maladies, la schizophrénie, les troubles bipolaires et certaines formes de dépression chronique nécessitent presque toujours une combinaison de médicaments et de thérapies. Et il conseille aux patients de garder en tête la quantité de travail personnel que cela implique et de se demander s'ils ont le temps et l'énergie de fournir l'effort. C'était la thérapie cognitivo-comportementale ou comment reprogrammer son cerveau. Un texte d'Alison Baker, paru le 22 novembre 2022, dans le magazine Sélection du Reader Digest.
Demander l'asile au chemin Roxham, un texte d'Emma Guerrero-Dufour, paru dans le magazine Pivot du 16 août 2022. Sama, réfugiée palestinienne de Syrie, raconte son passage à la frontière canado-américaine pour demander l'asile au Canada. Elle décrit la longue attente ainsi que le traitement différencié qu'elle a constaté de la part des autorités frontalières. Après avoir traversé, tu dois donner toutes tes affaires, puis on te demande quelques informations de base et pourquoi tu traverses la frontière illégalement, explique la jeune femme aux cheveux courts, d'un ton clair et posé, malgré une certaine nervosité qu'on peut détecter dans sa voix. Notez que Sama est un nom d'emprunt utilisé pour protéger son identité. Rencontrée au parc Jeanne-Mance à Montréal, Sama soutient avoir passé au total 3 jours dans les installations de l'Agence des services frontaliers du Canada au début de juillet. En demandant l'asile, la bachelière de 27 ans aurait fait face à de premières difficultés. Et c'est à cause de son statut. En tant que réfugiée palestinienne de Syrie, elle ne possède qu'un document de voyage, mais pas de passeport formel, ni de Syrie, ni de l'autorité palestinienne. Les autorités canadiennes ne savaient donc pas auprès de qui rapporter son arrivée au pays. Il n'était pas certain de la catégorie dans laquelle je tombais, raconte Sama, qui a grandi dans le camp de Yarmouk, au sud de Damas, la capitale syrienne. Créé par l'ONU, dans les années 1950, pour accueillir les Palestiniens, Palestiniennes, fuyant la guerre israélo-arabe, le camp, devenu depuis un véritable quartier, a été tour à tour assiégé par les forces armées syriennes, saisi par le groupe armé État islamique, puis bombardé par le régime de Bachar al-Assad. Après cette première entrevue, 2 heures d'attente, puis un transfert dans une roulotte des services frontaliers. Là, de nombreuses chaises alignées et un groupe d'environ 5 personnes de nationalités différentes, dont 2 jeunes enfants. Sama estime avoir attendu 6 heures, sans aucune information sur ce qui les attendait. « J'avais des collations dans mon sac, mais on m'a interdit de les prendre », affirme Sama. Aucune nourriture n'aurait été donnée ce jour-là. Dans la salle d'attente, seul un bidon d'eau était mis à disposition. Ce qui m'a choqué, c'est comment ils ont traité les enfants. Qu'ils ne leur aient pas donné droit à leur collation pendant 8 heures, relate-t-elle. Sama raconte aussi que les agents réveillaient chaque personne qui tentait de s'endormir. Il y avait un couple de Turcs et leur enfant qui dormaient avec une jambe qui dépassait sur la bordure d'une autre chaise. Ils se sont fait avertir de n'utiliser qu'une seule chaise. Mais personne d'autre n'attendait et plusieurs chaises étaient vides. C'était humiliant. Ce n'est que tard le soir que le groupe aurait été transféré vers une autre roulotte où des lits superposés les attendaient, arrivant ainsi trop tard pour la distribution du souper. Le lendemain, un déjeuner leur aurait été fourni, mais toujours pas d'informations sur la suite du processus. Sama raconte avoir attendu une journée entière, sans savoir pourquoi et toujours sans accès à ses effets personnels. Il y avait une femme avec nous qui a eu ses règles et elle avait besoin de se changer, mais on l'a empêchée d'aller chercher ses produits menstruels qui se trouvaient dans son sac, déplore Sama, pour qui il s'agit d'une question de dignité humaine. Lorsqu'elle a demandé l'accès à son téléphone pour avertir sa sœur qu'elle était arrivée, on lui aurait refusé. Même quand tu es un criminel et que tu te fais arrêter, tu as le droit à un appel, s'indigne-t-elle. La jeune femme, qui fait régulièrement des migraines, dit aussi avoir été privée de ses médicaments antidouleurs. Par contre, si vous fumiez et que vous aviez besoin de vos cigarettes, c'était permis. Et ce n'était pratiquement que des hommes qui fumaient, dénonce Sama. Les fumeurs auraient ainsi eu accès à leurs sacs et téléphones. Le lendemain matin, elle aurait été appelée par les agents d'immigration avant le déjeuner, manquant son premier repas de la journée. Elle aurait alors appris que sa demande d'asile était rejetée pour en avoir déjà fait une aux États-Unis, où elle habitait depuis 7 ans. C'est l'un des effets de l'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Cependant, Sama se serait fait dire qu'elle n'était pas menacée de déportation et qu'elle pouvait s'en aller. Le groupe aurait cependant été emmené dans un hôtel, l'un de ceux réquisitionnés par le gouvernement fédéral pour héberger les demandeurs-demandeuses d'asile. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. J'ai pensé qu'ils allaient me mettre en quarantaine, relate Sama, qui avait pourtant fourni des preuves vaccinales jugées valides et donné l'adresse de sa sœur comme lieu d'isolement potentiel en cas de COVID-19. Les agents lui auraient ordonné d'y passer la nuit, mais Sama dit avoir protesté en s'asseyant sur le sol. « Arrêtez-moi, ou bien laissez-moi partir. » J'ai paniqué parce que ça fait 7 ans que je n'ai pas vu ma famille et je savais qu'ils étaient à Montréal pour un mois. J'avais peur de devoir rester isolée pendant 2 semaines et de ne pas pouvoir les voir, soupire-t-elle. À ces questions, les agents auraient systématiquement refusé de répondre. Si au moins on m'avait informé sur la prochaine étape, Je n'aurais pas pu me plaindre, mais je ne comprenais pas pourquoi on devait rester à l'hôtel. Est-ce que c'était pour faire une quarantaine? Allions-nous être envoyés dans une autre province? Ce n'est qu'après avoir insisté et après de nombreux va-et-vient des agents frontaliers qu'on l'aurait finalement laissé appeler sa sœur pour qu'elle lui commande un taxi. Sama dit n'avoir pu quitter l'hôtel qu'à 22 heures, près de 3 jours après son arrivée au pays. Maintenant qu'elle est réunie avec sa sœur, Sama prend le temps d'atterrir au Québec. Elle espère pouvoir demander un permis de travail et s'inscrire au cours de français pour nouveaux arrivants. Mais pour l'instant, elle en profite pour visiter les rues de Montréal et rattraper le temps perdu. Vous venez d'entendre « Demander l'asile au chemin Roxham », un texte d'Emma Guerrero-Dufour, paru dans le magazine Pivot du 16 août 2022. Votre bas de laine finance l'effondrement de la vie sur Terre. Un texte de Francis Hébert Bernier, paru dans le magazine Pivot du 17 décembre 2022. Alors que les projets de protection et de restauration de la nature peinent à trouver du financement, les banques continuent à financer massivement des activités hautement néfastes pour la nature, préviennent des experts expertes. Une situation qui pourrait changer si les gouvernements mettent de la pression sur les banques. Tandis que les négociations autour du financement public international pour la protection de la biodiversité s'enlisent à la 15e conférence de l'ONU sur la biodiversité, COP 15, le ministre canadien de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a invoqué que le financement était le nerf de la guerre de cette COP. Il a aussi rappelé que le financement privé aurait un grand rôle à jouer pour atteindre les objectifs de conservation. Or, la majorité des banques et des fonds d'investissement qui contrôlent ce financement ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour assainir leur impact sur la biodiversité, selon des spécialistes du sujet rassemblés à Montréal par le collectif COP 15. La meilleure façon et la plus rapide de financer la protection de la biodiversité, c'est d'arrêter de financer sa destruction, rappelle Diego Kremer, directeur finance et biodiversité à Société pour la nature et les parcs, SNAP, Québec. Simplement cesser de financer l'industrie pétrolière aurait un immense impact puisque celle-ci affecte grandement à la fois le climat et la biodiversité, rappelle-t-il. Cette industrie aurait reçu des banques 46 000 milliards de dollars US durant les 6 dernières années selon l'estimation de Banking on Climate Chaos. Si on veut que les banques puissent améliorer l'impact de leurs investissements, il faut toutefois être capable de le mesurer, remarque le biologiste Dominique Gravel. En matière de biodiversité, c'est tout un défi d'arriver à une mesure d'impact, explique-t-il. Plusieurs efforts sont présentement déployés pour améliorer ces connaissances, mais les compagnies, dont les banques, qui profitent de la perte de biodiversité, ne contribuent que très peu à la collecte de données, explique-t-il. Ce n'est pas un modèle qui est viable à long terme, prévient-il. Si la collecte d'informations sur l'impact des investissements est primordiale pour que les investisseurs, investisseuses, puissent faire des choix éclairés lorsqu'ils et elles placent leur argent, attendre d'avoir les données pour agir n'est pas une solution non plus, prévient Andréanne Grimard, directrice de portefeuille d'investissement chez Colibri Catalyst. J'ai entendu beaucoup d'entreprises et de groupes d'entreprises durant la COP qui se cachent derrière le manque de données pour éviter de prendre action. Il y a plein de choses qui peuvent être faites maintenant et si l'on attend d'avoir les données, il sera trop tard, dénonce-t-elle. Elle mentionne notamment le financement de nouveaux procédés agricoles durables qui est souvent bloqué, particulièrement dans les pays en émergence, faute de pouvoir quantifier leurs effets. Bien qu'il y ait des initiatives en ce sens qui émanent du milieu financier, il faudra que les gouvernements fassent pression sur les banques pour qu'elles commencent à mesurer et éliminer l'impact de leurs actions sur la biodiversité, explique Alice Chipot, directrice générale de Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises. En ce moment, il n'y a pas de sanctions juridiques suffisamment fortes pour dissuader les entreprises et ceux qui les financent de détruire les milieux naturels, remarque-t-elle. Une prise de conscience collective de l'impact de nos investissements sera aussi nécessaire, rappelle Diego Kremer. La journée où les parents comprendront que les régimes d'épargne-études qu'ils créent pour l'avenir de leurs enfants détruisent cet avenir et qu'ils demanderont que ça cesse, on aura un bon bout de chemin de fait, conclut-il. Vous venez d'entendre la lecture d'un article écrit par Francis Hébert Bernier, paru dans le magazine Pivot du 17 décembre 2022, sous le titre « Votre bas de laine finance l'effondrement de la vie sur Terre ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Claire Dorion à la lecture, André Lebeau et Pierre Duclos à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.